Il y a des fois qu'il y a des débats dont on parle à la radio, puis je me demande tout le temps, est-ce que les gens jasent vraiment de ça? Notre-Dame de Paris, je peux vous confirmer que c'est pas juste dans les médias. Le débat est rendu bon sur la toile, oui, mais vraiment partout. Hein. Est-ce que, je sais pas pourquoi, évidemment, le phénomène, le symbole est fort, mais je pense que le fait qu'on ait réussi à ramasser 1 milliard rapidement pour, je l'ai dit, il y a un symbole, mais ça demeure une bâtisse. Là. Ça amène un bon débat, je trouve, moi. Moi, je suis d'accord avec la reconstruction. Évidemment, vous connaissez ma passion pour l'histoire, un peu les symboles. Mais je trouve pas que l'argument est mauvais. Même entre amis, on en a jasé en fin de semaine. On a débattu, nous autres, là, de dire, « Hey, t'as peu, là. Il n'y a pas des besoins plus criants que ça. 1 milliard en quelques jours. La santé, l'éducation, ça demeure du bois puis des pierres. Alors, est-ce que c'est normal de ramasser autant d'argent? Est-ce qu'on doit reconstruire? Est-ce que c'est vraiment une obligation morale où on pourrait juste dire, gars, ça passe au feu, c'est fini, on passe à d'autres choses? Et si on reconstruit, de quelle façon? Ah, déjà, j'ai des experts qui m'ont dit, on a parlé la semaine dernière, le gros débat va être là, parce que c'est clair qu'ils vont reconstruire. Mais comme autrefois, on leur fait exactement comme c'était, ou on en profite pour adapter ça à la modernité, puis on fait quoi de plus moderne? Un peu. On va aller rejoindre l'historienne Catherine Ferland pour jaser de tout ça. Madame Ferland, bon matin.
Bon matin.
Alors, avant de commencer, je sais que vous êtes déjà prononcé un peu, j'ai vu ça sur la façon dont on pourrait reconstruire, mais juste avant, là, sur le débat, est-ce que c'est trop, 1 milliard, ça n'a pas de bon sens, tout ça, est-ce que ça vaut vraiment la peine de reconstruire et de mettre autant d'argent dans ce qui demeure une bâtisse?
Ben, en fait, moi, tout ce qui est considération un peu plus éthique, là, est-ce qu'on devrait mettre cet argent-là dans la reconstruction, comme on dit, dans les pierres, dans le métal, ou si on devrait mettre ça sur des humains? Moi, je pense que le débat, il n'est pas tant là que dans la façon dont on veut lancer un message. Parce que quand on regarde qu'est-ce que c'est Notre-Dame, c'est à tout le monde. T'sais, quand on choisit d'aider un groupe en particulier, les autres groupes vont se lever et dire « Ouais, mais pourquoi vos milliards, vous allez les mettre à, mettons, l'enfance en péril et pas... au SDF en France. » Tu sais, il y a toute cette question-là aussi. Alors, la question d'un choix. Alors que Notre-Dame, c'est un peu à tout le monde. Donc, de le reconstruire, c'est un peu de faire un cadeau aussi. Quand on dit à l'humanité, c'est un peu ça également.
Ouais, puis je trouve également aussi, moi, puis que je veux pas trop qu'on s'attire là-dessus, que c'est un faux débat dans le sens où, tant qu'à ça, quelqu'un qui est malade par rapport à quelqu'un en santé, on va toujours dire, faut mettre de l'argent pour la maladie, pour la recherche, pour les gens qui souffrent, mais... Le monde en santé, là, tu sais, il faut continuer à vivre pareil. Il faut pas s'empêcher de vivre. Évidemment qu'il faut penser aux gens malades, il faut leur donner de l'argent, il faut qu'il y ait des soins. Mais c'est pas vrai qu'on va se priver de la beauté, de tous les symboles, que ce soit l'architecture ou l'histoire, parce que tant qu'à ça, on mettra plus une scène. Parce qu'à chaque fois qu'on va dépenser un sou, on va dire, non, il y a un Africain qui meurt de faim. Donc, moi, je pense que ça marche pas. Et vous avez raison de dire que Notre-Dame de Paris, c'est un symbole très fort, rassembleur pour tout le monde dans une société où on insiste beaucoup sur les divisions. Notre-Dame de Paris, ça reste fort.
Maintenant, reste un patrimoine de l'humanité. Puis il y a beaucoup de gens de d'autres communautés. Hein. On parle pas seulement des catholiques, mais il y a des gens de communautés musulmanes qui ont dit, écoutez, c'est peut-être à la base quelque chose de catholique, mais ça fait tellement partie aussi de l'histoire humaine que c'est à tout le monde. Donc, ça dépasse, ça transcende, ça va vraiment au-delà de la simple appartenance religieuse. Puis c'est pour ça que, quand on commence à s'interroger là-dessus, c'est sûr, on pourrait jaser longtemps, là, mais le débat est ailleurs. C'est plutôt de dire, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Réparer, oui, mais reconstruire, si on reconstruit, est-ce qu'on le fait à l'identique? Est-ce qu'on va ailleurs? C'est peut-être une belle occasion de se poser la question, justement. Hein, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on veut laisser comme message pour les autres générations?
Alors, êtes-vous dans le camp? Je sais que les nostalgiques vont dire, faut que ça soit pareil, faut que ça reste comme ça, faut essayer d'imiter le plus possible. Ou au contraire, vous êtes dans le camp de ceux qui disent, là, on a une occasion, on ne l'a pas souhaité, mais c'est ça. Pourquoi pas le mettre au goût du jour? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je suis plutôt du second camp, effectivement, parce que vous voyez, Sylvain, je suis plutôt, je suis historienne, évidemment, je m'intéresse énormément au patrimoine, mais justement, à cause de ça, je crois pas beaucoup à la reconstitution, à l'identique, parce que on peut facilement verser dans ce qu'on appelle le pastiche. Tu sais, on va imiter, on va construire avec des matériaux actuels quelque chose qui se veut une évocation de l'ancien. Dans d'autres contextes, ça peut être intéressant. Tu sais, on fait un complexe récréo-touristique médiéval, c'est sûr qu'on va faire du faux médiéval. Mais là, on a vraiment une belle occasion de se dire, OK, ça a été construit à l'époque médiévale. On était à cette époque-là au 12e siècle. On a construit avec les matériaux de l'époque. Ça a été un chantier qui a duré des années et des années. Il y a plusieurs idées qui se sont transposées. Il y a eu toutes sortes de désastres qui se sont produits. Hein, la Révolution française et tout ça, ils ont tout pété les statues de ce qu'ils pensaient être les rois de France et tout ça. Ils ont tout cassé. Il y a eu des déprédations. Et après ça, on a décidé au 19e siècle de la remettre en état avec les idées du 19e. Et là, on se retrouve aujourd'hui, en 2019, avec un problème sérieux, une toiture très endommagée. Et le questionnement suivant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on refait à l'identique? Est-ce qu'on refait avec notre touche à nous, avec quelque chose qui reflète les valeurs actuelles? Ben moi, je suis plutôt de cette idée-là que oui, coudonc, on a une occasion. Ben pourquoi ne pas en profiter pour réfléchir à ce qu'on veut laisser, effectivement, comme idée, comme message, comme valeur de ce qu'on est, nous, avec cette problématique-là de réparation?
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous avez des idées? Évidemment, c'est le début. On ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. Mais comment on pourrait redonner une touche de modernité, évidemment, sans que ça contraste trop avec, ouais, avec le passé, avec le symbole? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon vous?
Ben, il y a plusieurs idées qui ont circulé. On en a vu, vous comme moi, là, ça circule énormément. Il y a des blagues au passage, évidemment, hein, on peut pas s'en empêcher. Mais moi, j'ai vu une idée intéressante. Je ne suis pas certaine que ça pourrait fonctionner, mais moi, j'ai trouvé l'idée extrêmement stimulante. C'est l'idée de faire un toit végétalisé. Là, attention, on ne parle pas de simplement faire un carré potager sur le toit de Notre-Dame. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça serait peut-être de recréer la forme de l'ancien toit, mais de plutôt l'orienter comme étant des surfaces où on peut accueillir des plantes. Pourquoi pas une vigne? D'avoir quelque chose qui reflète à la fois un souci très contemporain d'environnement, mais aussi peut-être un clin d'œil parce que, bon, si on y va du côté de la vigne, on le sait qu'en France, c'est non seulement pas un problème de faire pousser de la vigne, mais en plus, il y a de plus en plus d'essais dans ce sens-là d'utiliser les toitures pour faire pousser de la vigne. Mais ça sera un mot du beau symbole aussi. Hein, la symbolique de la vigne, puis le symbole religieux, la communion et tout ça, ça pourrait être intéressant. Puis au-delà de ça, ben c'est effectivement une occasion de montrer que les valeurs actuelles d'écologie, ben pourraient peut-être se transposer dans un projet comme ça. Et moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi là-dedans, c'est de dire, ben le toit qui a brûlé, on en a parlé beaucoup, c'était des forêts, c'est pratiquement oui. L'équivalent d'une forêt complète là de chênes anciens, des troncs incroyables et tout ça. On l'appelait d'ailleurs la forêt, cette structure-là de bois à l'intérieur de la toiture. Ben on le sait, dans la nature, quand une forêt brûle, qu'est-ce qui prend la place? C'est des jeunes pousses, c'est la nature qui reprend ses droits. Il y aurait un fichu de beau symbole à aller chercher là en faisant un toit végétalisé.
Mais déjà, je vois, évidemment, toutes les idées sont bonnes. Là, on peut faire un genre de brainstorm, tout ça. Mais non loin de là, je suis sûr que vous vous rappelez de la controverse quand ils ont fait la fameuse pyramide au Louvre. Mm-hmm. Là, où là, le oui. contraste entre les structures plus classiques et la modernité, ça n'a pas plu à tout le monde. Alors, est-ce que
non,
vous pensez
que ça va être
difficile de faire ce débat-là parce que les partisans de « on refait ça comme avant » vont crier oui. fort, selon moi?
Ben oui, c'est certain. Puis il y a d'excellentes raisons à ça aussi. Et bon, là, je suis très consciente que je m'inscris en porte-à-faux avec beaucoup de mes collègues historiens qui vont dire, ben non, voyons, faut reconstruire l'identique. Ben moi, non, je suis un petit peu comme il y a un professeur en France, Patrick Boucheron, qui est professeur des universités, qui est spécialiste en histoire médiévale et tout ça. Lui, il est d'avis que c'est intéressant quand les cicatrices paraissent, quand une époque laisse sa marque, parce que ça serait un peu un faux débat que de relancer dans l'univers une cathédrale reconstruite à l'identique. Les générations futures vont la regarder puis pas comprendre qu'il y a eu un désastre en 2019. Alors que non, c'est important que ces cicatrices-là paraissent du temps actuel pour le futur également. Tu sais, c'est drôle, en tant qu'historien, on peut penser aux futurs historiens en se disant, ben ce qu'on fait maintenant, ça va être le passé un jour. Tu sais, c'est des traces qu'on laisse maintenant qui vont être étudiées plus tard. Fait que je suis un petit peu dans ce camp-là de dire, ben oui, saisissons cette occasion-là.
Catherine Ferland, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
Ça fait plaisir. Merci,
bonne journée. Catherine Ferland est historienne. Alors, elle est en faveur de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, même si ça coûte cher, même si ça coûte un milliard. Mais tant qu'à faire, elle soulève un bon débat. Est-ce qu'on refait ça exactement comme avant? Quand une maison, là, je sais que la comparaison est un peu boiteuse, mais sur le plan personnel, quand on perd de quoi? Moi, je connais personne qui rebâtit à l'identique. En général, on adapte ça au goût du jour. Mettons que, par contre, c'est une vieille maison. Pas pareil. Là. Si c'est symbolique, ça. Tu vas peut-être dire, ah, moi, j'aimerais ça la restaurer comme avant.
Ouais.
Mais est-ce qu'on peut insérer une goutte de modernité? Elle a parlé de vignes, de végétation, de quelque chose sur le toit, qu'on voit qu'il s'est passé de quoi, là. T'sais, il y a quand même eu un incendie et qu'on a rebâti avec certaines valeurs plus au goût du jour.
Mais ce qui est difficile, c'est quand c'est ta propre maison à toi, mettons, qui passe au feu, ben, t'es le seul qui prend la décision. Tu y vas selon tes goûts
bon
à
point,
toi.
C'est la maison de tout le monde.
C'est là, exactement. C'est
la maison
c'est
de tout le monde. Puis il faut pas que la symbolique change non plus. T'sais, il faut qu'il y ait un certain respect de l'histoire et de la symbolique de ce bâtiment-là.
Moi, je voudrais pas qu'on perde l'essence là, de ce bâtiment-là, personnellement. Là. Oui, moderne, mais pas trop. Là. Ça reste quand même une partie de l'histoire qui est importante.
Il faut qu'il y ait un bon équilibre. Je suis d'accord. Moi, je suis pas contre qu'on insère des éléments de modernité sans défigurer totalement le symbole du passé. Faut que... Mais de toute façon, il y a juste le toit, là.
Ouais.
C'est ça. Le reste est pas mal conservé, là.
Les murs, les clochers, sont encore là, non?
Ouais. 25226, voir dans nos auditeurs, êtes-vous plus des partisans, on refait ça exactement comme avant ou on met ça au goût du jour?
Il y a quelques personnes quand même qui ont fait ce commentaire-là depuis la semaine passée qui disent, nous les Québécois, de quoi on se mêle? C'est pas à nous,
on
ça, c'est parce que
mais non, mais on en parle.
Mais c'est ça, mais je trouve qu'on est quand même, écoute, quand ça fait partie de l'histoire, je pense que le monde au complet est concerné, là. Puis je vois pas pourquoi on se priverait de faire partie du débat ou d'émettre des commentaires.
Non, je suis d'accord qu'on n'a pas. Non, on décidera pas, mais on peut parler.
Ben oui, c'est ça.
C'est tout, là.
Je trouve que c'est montrer respect aussi envers cette bâtisse-là, le fait qu'on soit si touché par ça.
Quand on dit qu'un édifice fait partie du patrimoine mondial, ben on est dans le monde.
C'est ça, exact.
On en fait partie.
C'est ça. Par contre, le débat comme tel, là, évidemment, c'est pas nous autres qui va trancher, mais je pense qu'on peut participer.
Comme on n'a pas participé au débat sur la pyramide dans le cours du Louvre dont tu as parlé.
Non, mais ça
fait
changer.
Ou du centre Georges Pompidou aussi. T'sais, Paris, il y a des touches de modernisme là-dedans là, aussi. C'est pas juste une vieille ville. Là.
Et puis en passant, les Français sont très touchés de voir que le monde entier se préoccupe de la... Écoute, il y avait Zaz, la chanteuse Zaz, qui était à Tout le monde en parle dimanche soir, puis évidemment, ils l'ont questionnée là-dessus. Puis il y avait une autre comédienne française qui est venue sur le plateau plus tard. Et puis les deux avaient le même commentaire. C'est incroyable l'amour mondial que les gens portent finalement à ce bâtiment-là, puis ils sont très touchés par ça. Fait que je vois pas pourquoi on se priverait d'en parler.
Ouais. Et sur le débat, ben là-dessus aussi les positions, je trouve que c'est un bon débat. Moi, j'aime bien ça quand il y a des bons arguments des deux bords. Mm-hmm. C'est le fun quand c'est comme dans le sport, là. T'as un bon combat de boxe quand t'as deux adversaires qui savent se battre, là, t'sais. Et effectivement, c'est beaucoup un milliard pour du bois, puis de la pierre, puis le symbole, puis l'histoire. Sauf que je pense qu'il faut aller au-delà de ça et qu'on a le droit, on peut pas mettre toutes ces ressources dans une société, on peut pas mettre tout pour, mettons, les gens dans le besoin. Là.
Non.
Il faut, à un moment donné, il faut continuer à vivre. Puis tout en respectant ceux qui ont moins bien réussi, qui souffrent et qui sont malades, tout ça. Mais
il y a quelqu'un qui dit, moi, je leur donnerais le toit du stade olympique. C'est pas leur faire un cadeau, ça, là.
Ouais, on essaie de les aider, là.
C'est ça, là, faut être positif.
Non, les Français ont leurs défauts, mais on les aime quand même.
On les haït pas ce point-là.
J'essaie de trouver une phrase la plus respectueuse possible là, pour expliquer un peu mon point de vue sur le débat du 1 milliard. Tout ça, c'est surtout ça qui a fait jaser, là, tu sais. Quelqu'un qui a faim à côté de toi, c'est pas nécessairement en arrêtant de manger que tu vas l'aider.
C'est vrai.
Quand tu es en avion, tu sais, la fameuse, souvent, là, ça, c'est en avion, mettons que les masques tombent, là, puis il y a un enfant à côté de toi. Alors, la question, c'est est-ce que tu dois mettre en premier le masque à l'enfant? La majorité des gens vont dire, ben oui, c'est faux. Mm. Vous savez qu'il faut d'abord que tu mettes le masque à toi pour être capable de le mettre à l'enfant après. C'est tous des exemples boiteux, j'en suis conscient, mais je pense pas que la société doit se rendre malade puis se priver de la beauté, de l'histoire,
Il faut pas égaliser par le bas, dans le fond.
Non, mais oui, il faut les aider. Mais les gens plus démunis, on va les aider bien plus en le montrant pêcher qu'en leur donnant des poissons. Exact. Connaissez le vieil adage. Mm. Donc, je vois pas de scandale, moi, comme tel, en mettant 1 milliard pour ça. C'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Je comprends. Oui.
Mais tu sais, l'exemple de la nourriture est bon parce que tu sais, des fois, tu vas aller au restaurant puis tu n'auras plus faim, tu finiras pas ton assiette, puis la personne à côté de toi va dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens de gaspiller de même, il y a des enfants qui meurent en Afrique. Mais le reste de ton assiette, là, elle ne sera pas envoyée directement à un enfant en Afrique. C'est pas parce que tu finis pas ton assiette qu'on va en donner plus aux gens en Afrique. Mmh. Fait que l'exemple est bon aussi pour ça, là.
Et je pense que parce qu'on en jasait en fin de semaine, les familles qui ont donné, là, pour 1 milliard, à mon avis, ils donnent à d'autres choses.
Ben oui, c'est
pas juste à mon avis, là. Ils donnent ailleurs aussi, sinon, on va mettre fin à tous les spectacles, on va mettre fin aux musées, à toutes les œuvres d'art, à tout l'argent qu'on met dans notre divertissement, parce qu'il y a des gens qui souffrent au moment où on se parle.